Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Allez, aujourd'hui on vous parle du Drawing No Art Festival. C'est la première foire d'art contemporain dédiée au dessin contemporain. Elle commence demain, ce jeudi 21 mars, et elle va se dérouler jusqu'au dimanche 24 mars au Carreau du Temple. C'est dans le 3e arrondissement de Paris. Johanna Neves, la directrice artistique de Drawing No, nous rappelle l'importance du dessin dans la sphère artistique. Elle est interviewée par Fred Michel.
Bonjour Johanna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler de Drawing No, le salon du dessin contemporain, dont c'est la 17e édition qui se déroulera du 21 au 24 mars 2024 à Paris au Carreau du Temple. Cette 17e édition, comment on pourrait la résumer ?
Alors, c'est toujours très difficile de résumer une édition. Alors, tout simplement, en pensant, c'est loin déjà, mais en pensant au comité de sélection, nous avons quand même remarqué que les artistes ont pris le large, c'est-à-dire ils ont pris leurs aises. Et en fait, on a beaucoup de dessins de grande dimension. Et nous avons remarqué qu'il y a vraiment une prise du dessin. De plus en plus, les artistes prennent le dessin comme leur médium d'expression principal, ou en tout cas en parallèle avec d'autres langages artistiques. Et on voit que vraiment, ce sont des œuvres majeures, ce ne sont pas du tout des œuvres parallèles ou de préparation. Et là, je trouve que les dimensions, justement, démontrent qu'il y a vraiment... on envisage le dessin comme un médium à part entière. Par ailleurs, on a l'exposition Animation mécanique de l'esprit qui fait un focus sur l'animation pour la première fois chez nous.
Voilà, et on sent une prédominance du dessin déjà depuis quelques années, aussi bien dans les galeries, les musées, les salons.
Et aussi les ventes aux enchères. Donc, en fait, les ventes aux enchères, c'est un peu le baromètre, on va dire. C'est pas nous, ça ne nous concerne pas du tout. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'évaluer, de faire une étude de marché en ce qui concerne les ventes de n'importe quel médium auprès des galeries. C'est toujours très compliqué. Les ventes prennent très longtemps. Souvent, dans notre salon, il y a des ventes qui se font 4-5 mois après, qui se réalisent ou qui se concrétisent 4-5 mois après. Donc, les salons, les ventes aux enchères sont quand même un sort de baromètre qui nous montre une progression dans les prix du dessin quand même, qui n'atteignent pas évidemment les prix de la peinture. Mais il y a vraiment une prise au sérieux du dessin qu'on remarque absolument chez nous, parce que nous avons tous les fans qui viennent nous voir, des institutions internationales. On est vraiment un lieu de rendez-vous pour les professionnels de l'art contemporain, pas forcément du dessin.
Il faut dire aussi que le dessin reste abordable. C'est une œuvre d'art qui reste assez abordable.
Alors, c'est ça qui est intéressant dans le dessin, c'est que ce que je dis toujours, c'est si vous regardez des artistes qui ont une pratique pluridisciplinaire, qui font autant de dessins que d'autres langages artistiques, voire même si vous regardez des artistes qui ne font que du dessin, pour le prix d'une peinture, vous aurez 3 dessins, par exemple. Vous aurez 2 dessins, tout dépend de l'artiste que vous regardez. Et d'une certaine façon, il y a vraiment un investissement culturel énorme dans le dessin qui peut se faire sans une perte de valeur dans l'œuvre achetée. Donc, tout fait sens dans le dessin. Je connais même une collectionneuse américaine qui n'encadre pas ses dessins, sauf celle qu'elle montre chez elle et puis elle fait tourner régulièrement chez elle. Elle les garde dans des tiroirs pour pouvoir ouvrir les tiroirs et les toucher. Donc, il y a vraiment un rapport tellement viscéral presque au dessin, tellement intime. Sensoriel, absolument. Il y a beaucoup de gens qui ont ce rapport aussi avec la peinture. J'ai regardé l'autre jour un film sur Philip Garston qui touchait toujours ses peintures. On le voit se promener dans les musées. Il y a toujours ce rapport très sensoriel à n'importe quel objet artistique, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une accessibilité du dessin, non seulement en termes de nombre d'œuvres qu'on peut acheter, mais aussi dans la représentation culturelle que le dessin peut ensuite amener dans une collection.
Alors vous, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous plaît tant dans le dessin ?
Ah, c'est compliqué, beaucoup de choses. Mais en fait, moi, je suis une Portugaise née au Portugal, ayant vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 18 ans. L'art contemporain, et j'y suis retournée d'ailleurs après entre 1996 et 2003, 98 et 2003. Et en fait, il y a quelque chose dans le dessin qui est une circulation beaucoup plus simple, notamment par le biais de l'art conceptuel. L'art conceptuel peut voyager sans qu'un objet voyage. Et donc, je pense que mon entrée dans le dessin contemporain s'est fait vraiment par l'art conceptuel. Moi, je suis quelqu'un qui vient plutôt de la littérature, de la philosophie. J'ai fait des études de philo. Donc, le langage est très important pour moi. Et donc, c'est par ce biais que je suis entrée peu à peu dans les arts plastiques. Et le dessin reste justement très près de la causa mentale, et non de l'esprit, de la réflexion, du concept, de l'imagination. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je pense j'ai ce rapport très, très, très proche et presque fusionnel avec le dessin.
Et vous êtes curieuse aussi parce que vous vous intéressez à plein de domaines dans le dessin.
Oui, alors je me sens très très bien à Drawing Now comme la nouvelle directrice depuis 2018 parce que Drawing Now a cette éthique très particulière de vouloir aller se ramifier et accueillir du coup d'autres expressions plastiques du dessin qui ne sont pas forcément considérées par tout le monde comme faisant partie du langage de l'art contemporain. Donc on a élaboré une exposition avec la maison de la bande dessinée, de l'image d'Angoulême, j'embrouille toujours mes pinceaux avec cette dénomination, autour de la bande dessinée. Nous avons travaillé avec la Cinémathèque, malheureusement, pendant la première année de la pandémie, autour du dessin dans le cinéma. Dans l'animation, enfin donc l'animation est le focus cette année. Donc je suis très curieuse en fait des autres utilisations du dessin, voire même dans la science par exemple. On revient en ce moment dans la science à l'illustration par le biais du dessin parce qu'on comprend finalement que les machines ne sont pas capables de dessiner certaines choses qui ne peuvent s'exprimer qu'autrement que par de l'image dans la médecine, l'astrophysique, enfin dans plein de domaines. Donc je suis vraiment très ouverte à d'autres langages contemporains et on est très friands en fait de les amener vers chez nous et de montrer aux collections et aux institutions et aux privés, aux collectionneurs privés, que le dessin est vraiment partout et se trouve dans notre culture la plus contemporaine et la plus actuelle possible.
Alors pour moi, oui, c'est ça. Drawing Now, c'est une belle mise en avant, une belle vitrine pour le dessin qui a été souvent et longtemps un sous-genre.
Oui, oui, oui. Et il y a encore des gens. Hein. L'autre jour, j'écoutais, je ne dirais pas quel artiste ni quelle galerie, mais j'écoutais un talk avec une artiste qui, en plus, fait beaucoup de dessins et fait d'ailleurs de l'animation. Et elle a été présentée comme une artiste qui fait encore du dessin parce que le dessin est une pratique mourante. Donc j'en étais... Je suis pratiquement tombée de ma chaise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça et quelle conception ? J'étais intéressée par savoir quelle conception on peut bien avoir du dessin. Et c'est pour ça qu'on a organisé un symposium cette année et que nous avons invité plusieurs personnes à parler notamment de l'éducation du dessin. Nous avons des intervenantes qui nous viennent de la Suisse, de l'Angleterre, de la France, pour essayer d'expliquer aussi, parce que ça commence au niveau de l'éducation, comment est-ce qu'on enseigne le dessin ? Comment parle-t-on du dessin ? Et comment est-ce qu'on exprime la capacité plastique du dessin dans ces enseignements-là, ici dans le cadre de l'enseignement supérieur ? Parce que franchement, si on regarde autour de nous, quand on regarde les jeunes, je suis régulièrement jury de diplôme DNSEP, etc. en France. J'habite à Londres, mais je viens régulièrement en France. Et je remarque que les étudiantes et les étudiants, souvent, mettent dans leur bibliographie et dans leurs œuvres de repères, à la fin de leur mémoire, des animations, des mangas, des bandes dessinées. Enfin, ils sont friands de cette culture et ils la pratiquent. Donc franchement, c'est une grande cécité de ne pas voir que le dessin est vraiment une pratique extrêmement importante actuellement, que les jeunes d'ailleurs pratiquent beaucoup.
Et donc l'idée du symposium, c'est de faire un état des lieux du dessin.
Un petit peu, oui. C'était vraiment... bon. Alors, la première raison de base, parce que n'oublions pas, nous sommes dans un contexte commercial. La première raison de base, c'est de soutenir nos galeries dans leurs efforts, parce que les galeries prennent de plus en plus de risques, nous apportent des artistes extrêmement contemporains, extrêmement pointus dans leurs pratiques. Et donc, pour les soutenir, l'idée, c'est vraiment d'inviter des professionnels à se rendre visibles, à se manifester. Parce que ces professionnels qu'on a invités au symposium, ils viennent tous les ans pratiquement, mais les galeristes ne les connaissent pas forcément. Une nouvelle galerie qui vient d'ouvrir ne connaît pas forcément tous les professionnels. Donc le premier but, je dois dire, très pragmatique de ce symposium, c'était de faire en sorte qu'on se réunisse et qu'on acte sur le fait qu'on ait autant de visiteurs institutionnels français et étrangers. Ensuite, ça a été vraiment de faire un peu le point sur le dessin, d'un point de vue, on va dire, des questionnements actuels qu'on se pose. Donc, la durabilité, l'éducation, la science, la bande dessinée et d'autres langages peut-être périphériques à la bande dessinée ou qui en font partie, l'animation, etc. Et les collections aussi. C'est-à-dire que les collections commencent aussi à avoir d'autres... comment dire, d'autres modes de circulation. Et donc, on a invité des institutions à s'exprimer là-dessus et à expliquer comment ils travaillent avec d'autres institutions en montrant leurs collections, en s'échangeant des collections, etc. Donc, les collections en ce moment deviennent plus visibles, c'est d'autant mieux.
Alors, je voulais rappeler quand même quelques chiffres par rapport au salon. Drawing Now, c'est 72 galeries internationales, 300 artistes présentés, et 15 pays représentés, donc c'est quand même pas mal.
C'est pas mal, oui, c'est pas mal. On est très contents parce qu'on a des galeries qui nous viennent de France, de Paris. La galerie Obadia est une nouvelle entrée, donc on en est très, très fiers. Mais en fait, ce qui nous définit aussi, c'est qu'on est une foire qui n'est pas dans les enjeux des grandes foires généralistes. Et donc, on est dans un enjeu de représentation. Donc, nous avons aussi des galeries qui nous viennent de régions. Et ça, c'est très important pour nous. Et puis, on a des galeries qui nous viennent de pays un peu inattendus, on va dire. On a une galerie turque, une galerie roumaine, une galerie japonaise, américaine. Enfin, voilà, on a quand même, un beau panorama, je pense, à un niveau international qui renforce un petit peu notre idée que le dessin est quand même... partout et qui se pratiquent de façon très différente suivant les contextes.
Oui, et le lieu, le Carreau du Temple, se prête parfaitement à l'exercice.
Alors, le Carreau du Temple se prête à l'exercice de produire une foire à taille humaine,
exactement,
on va dire.
Oui.
Après, ça nous... voilà, on a beaucoup, beaucoup de candidatures. Je ne vous mens pas, hein. Nous avons de plus en plus de candidatures très intéressantes. Et c'est vrai qu'à Paris, soit on est dans des lieux extrêmement vastes, qui ne nous conviennent pas. Le dessin, c'est quand même une pratique très particulière, même s'il se fait très grand. On ne veut pas perdre ce côté de rencontre, en fait. C'est une foire, je dois quand même souligner, où les gens reviennent tous les jours. On le sait parce que les gens bipent leur carte. Donc, on sait que les gens reviennent tous les jours, se donnent rendez-vous à la foire.
Il y a l'idée de proximité aussi.
Exactement. Donc, on ne veut pas perdre au troc d'un espace peut-être plus grand cette proximité et ce rendez-vous de professionnels et d'amis et d'amateurs d'art qui est très important pour nous. Les artistes adorent venir chez nous alors que normalement, ils sont plutôt allergiques aux foires. Et en fait, ils sont très, très, très confortables chez nous parce que le contexte que nous créons crée des échanges sur l'art et pas sur les CV. Et ça, même si évidemment il y a toujours un niveau de représentation qui est important et que je revendique, c'est important aussi de savoir où on en est et de savoir qui est qui, avec qui on parle. Mais surtout, le moteur et l'axe central, c'est quand même le travail des artistes. Et ça, c'est extrêmement important et j'en suis très, très fière.
Les galeries seront réparties sur trois secteurs, général, insight et process.
Alors, ça fait depuis 2018, donc depuis que je suis arrivée, qu'on a créé les deux secteurs process et insight et qu'on a maintenu le secteur général. Alors, il faut, dans les foires, il faut répartir un peu les choses au sens où, même si on est dans un espace à échelle humaine, il y a quand même deux niveaux. Et il y a un niveau plus intime, on va dire, on est encore plus en contact avec les galeries et les artistes. Et puis le niveau général de galeries qui souvent participent depuis la première année d'existence du salon. Donc, il y a quand même deux rapports très différents. Et donc, l'idée de créer Process et Insight, c'est que selon l'architecture du sous-sol, nous avons deux espaces définis. Et donc, on a deux espaces curatés. Alors, Process, c'est plutôt un espace où les galeries proposent des artistes qui s'appuient sur l'aspect processuel du dessin et qui vont vers d'autres langages. Donc, on peut trouver de la poésie, de l'architecture, de la musique, de l'animation, de la bande dessinée, de la sculpture, plein d'autres langages qui s'associent au dessin ou vers lesquels le dessin peut nous mener. Et puis de l'autre côté, Insight, c'est vraiment un espace découverte. Les deux espaces sont des espaces découvertes. Donc Insight encore plus, parce que ce sont des cadres pour des expositions, enfin des expositions, des propositions de galeries en solo ou en duo. Donc il y a un ou deux artistes qui doivent ne pas être connus de la scène française. Donc ils peuvent être des grandes stars chez eux, mais ils viennent ici un peu pour se faire découvrir dans la scène parisienne. Ce qui veut dire que, en fait, au départ, je ne vous cache pas que ça a été compliqué de faire descendre les gens. Il y a aussi l'exposition en bas. Et en fait, maintenant, on remarque que certains collectionneurs plus... comment dire, pour être diplomate, plus astucieux, on va dire, commence par en bas, parce que les gens se précipitent dans le secteur général où il y a leurs potes, leurs amis ou leurs habitudes, on va dire, depuis plus de 10 ans. Et certaines personnes descendent, les curateurs descendent, les curatrices, pour découvrir, parce que c'est vraiment un espace découverte. Il y a le café, il y a l'exposition. Et donc, on remarque que maintenant, c'est vraiment un espace qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, parce qu'on est sûr et certain d'aller découvrir de nouvelles choses.
Alors, chaque année, vous remettez un prix aussi.
Oui, et cette année, on n'a que des femmes. Oui. C'est bien la première fois.
On peut les citer.
Et nous avons une BDiste.
Ouais, exactement, on peut les citer.
Oui, allez-y, allez-y.
Il y a Caroline Corbasson, Stéphanie Mancy, Catherine Meurice, Marine Pagès et Tatiana Volska.
Oui, tout à fait. Que des femmes, on n'a pas fait exprès du tout. C'est un vote que nous faisons chacun, donc les membres du jury se réunissent et ensuite, en fonction des galeries sélectionnées, sur les focus des galeries, dans une certaine tranche d'âge, on choisit des artistes. Donc, il y a beaucoup de présélectionnés et ensuite, nous votons. Donc, ça a été un pur hasard. Personne, il n'y a pas de pression particulière pour aller vers des femmes. Mais je pense qu'en arrivant, et avec le jury que j'ai rencontré à l'époque, qui a changé depuis, mais beaucoup de membres du jury, et moi-même inclus, on a quand même fait en sorte d'essayer de comprendre si nous étions dans la parité ou pas, quelle représentativité nous pouvions avoir en termes de genre, et on inclut évidemment les personnes trans, on était curieux aussi de voir comment est-ce qu'on allait ou vers qui on allait très naturellement. Je pense qu'il faut toujours s'interroger. On a beaucoup de misogynie intégrée, culturelle, patriarcale, de par le fait qu'on est dans une société patriarcale. Et donc, on s'est interrogé quand même de façon très légère et très, très à l'aise dans ce sens-là. Et je pense qu'on se corrige tout le temps, on corrige des mauvaises habitudes. Et c'est très important. Et puis finalement, ici, très naturellement, on a regardé le travail. C'est pas parce que c'est des femmes, on a regardé le travail. Et le travail de ces femmes est absolument exceptionnel. Cette année, je suis très heureuse. La lauréate de l'année dernière, c'est Suzanne Husky, qui a maintenant une exposition au Drawing Lab, qui est aussi quelqu'un d'absolument exceptionnel, qui travaille sur la durabilité et sur l'impact du changement climatique sur les animaux. Voilà, donc ce sont des œuvres. Et ici, ces lauréates ont des œuvres très différentes. Et puis surtout, je suis très, très heureuse d'avoir une BDiste dans le lot.
Justement, on va continuer sur la bande dessinée parce que la bande dessinée aura toute sa place aussi au salon.
Oui, tout à fait. Alors déjà par cette nomination, et nous avons donc la galerie Barbier, nous avons la galerie Martel qui vient vraiment depuis pratiquement dès le début et qui nous propose chaque année non seulement de la bande dessinée, c'est-à-dire sous forme de vignettes, mais une chose que les gens savent peut-être moins, à savoir que les artistes de la bande dessinée font aussi de la bande dessinée expérimentale, font aussi du dessin pour tester des personnages, pour tester des couleurs, des formes, et parfois parfois se mettent aussi dans un espèce d'entre-deux, on va dire, entre la bande dessinée et les arts plastiques, et créent des œuvres tout à fait surprenantes. Catherine Meurice est un exemple quand même assez extraordinaire. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la littérature, qui a fait un livre de bande dessinée sur la philosophie. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement ouverte. Et voilà, qui a une pratique plastique extrêmement intéressante. Donc voilà, nous sommes très heureux de ça. Et puis je signale aussi qu'il y a d'autres galeries. Alors Anne Barrault ne participe pas cette année, mais souvent elle nous amène de la bande dessinée extrêmement pointue. L'année dernière, elle nous a amené Julie Doucet du Canada, qui est quand même une BDiste extrêmement importante, non seulement dans le mouvement féministe, mais aussi punk du Canada, et aussi une assez grande pionnière de ce médium. Elle nous a amené Kilofer. Enfin, il y a quand même beaucoup de galeries finalement qui vont aussi vers la bande dessinée. C'était le cas avec Lovenbruck il y a quelques années aussi. Donc voilà, la bande dessinée est partout et heureusement.
Et on pourra aussi retrouver la bande dessinée au cours d'une rencontre intitulée « La bande dessinée et son rôle dans le champ de l'art narratif » alors avec Dominique Goblet, Anne Lemonnier et Catherine Meurice. Elle sera modérée par Annette Goering, la directrice du Cartoon Museum de Bâle, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Je suis très heureuse d'avoir entamé cette... Ça fait très longtemps que je vais au Cartoon Museum à Bâle, que j'adore. C'est un petit édifice très mignon, très sympa, à côté des grands musées d'art contemporain. Et elle a toujours des expositions extrêmement pointues. J'ai vu l'exposition de... Ah, son nom va m'échapper. Qui était au Centre Pompidou il n'y a pas longtemps à la BPI. C'est une BDiste anglaise, voilà, son nom va m'échapper. Posy Simmons, je crois. Posy Simmons, voilà. J'avais découvert Posy Simmons là-bas, habitant à Londres, c'est un peu malheureux. Mais donc, c'est pour ça que les musées sont si importants. Et donc, Annette Goering, c'est quelqu'un qui non seulement s'intéresse à la bande dessinée, mais aussi très intéressée par des pratiques, la ramification de la bande dessinée vers d'autres langages. Et elle va mettre l'accent sur la question du narratif, de la narration dans la bande dessinée.
Voilà, très bien. Écoutez, on va terminer sur la narration et la bande dessinée. Merci encore pour ce petit moment passé ensemble. Je rappelle les dates du 21 au 24 mars 2024 au Carreau du Temple. Merci Johanna, à bientôt.
Merci beaucoup.
Voilà, je vous rappelle simplement les dates de Drawing No à Erdfer. C'est donc du jeudi 21 au dimanche 24 mars prochain. Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous pouvez rester avec nous. On a un peu plus de 350 émissions désormais en archive pour passer la journée en bande dessinée. Allez, bonne journée à tous et à toutes.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.